Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot. Sommaire de gala. Ce mercredi avec d'abord un invité de marque, un international congolais, ancien grand espoir français, ex-coéquipier de Didier Drogba, devenu grand voyageur. Mais tel Ulysse, il a longtemps baroudé pour mieux retrouver sa maison, ch'ti d'hier et d'aujourd'hui. Gaël Kakuta, fer de lance et fier d'être de nouveau lensois, décrochera tout à l'heure son téléphone pour être avec nous. Sommaire de gala, donc une finale de Coupe du Monde au programme, pardon. Enfin presque, l'affiche d'une finale, le scénario d'une finale, mais ce n'est pas une finale. La victoire de la France contre la Croatie hier dans un remake un peu au rabais tout de même du 15 juillet 2018. Des enseignements tout de même à tirer de cette rencontre et du retour des Bleus sur les terrains après de nombreux mois d'absence. Et puis cette petite déception pour Sadio Mané, ce n'est pas lui le meilleur dans le championnat d'Angleterre, c'est Kevin De Bruyne. Ainsi en ont décidé les autres joueurs de Première Ligue. Beaucoup trouvent ce choix logique, mais nous ne sommes pas du genre à laisser passer ça sur RFI, n'est-ce pas, Abibay?
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Je ne suis pas de cet avis-là, mais c'est vrai que voilà, Kevin De Bruyne est malgré tout, pas malgré tout, mais est un superbe joueur.
Mais une petite déception tout de même. Et franchement, oui. Casting 5 étoiles, programme de gala et casting 5 étoiles aujourd'hui dans Radio Foot. C'est un peu Ocean's Eleven ce mercredi pour vous, chers auditeurs. La musique est de circonstance. Abibay, Abibay Brad Pitt, c'est ça, on peut le dire.
Abby Bain, tout ce court, c'est bien.
Qui est George Clooney?
Allez.
Xavier Barré. Bonjour Xavier.
Salut Hugo, bonjour chinois, à tous.
Autre George Clooney, George Clooney bis, Philippe Doucet, bonjour Philippe.
Bonjour Hugo.
Un film de rêve, casting de rêve, scénario de rêve, merci David Finzel, et puis réalisateur de rêve, merci au maestro Laurent Salardo.
Avec Anthony Martial, eh bien, le scénario se répète toujours. Avec la Croatie, on va peut-être terminer à 4-2.
Et le dégagement, c'est fini! L'équipe de France est championne! 4 buts à 2 face à une équipe de Croatie.
C'était le score il y a deux ans, un peu plus de deux ans, au stade Loujniki de Moscou. C'était une finale de Coupe du Monde. C'est encore une fois le score ce soir au stade de France.
Deux années différentes, deux compétitions différentes et deux contextes très différents. Mais deux matchs qui se ressemblent étrangement, deux succès de l'équipe de France contre la Croatie sur le même score, 4-2. L'un en finale de la Coupe du Monde, il y a deux ans, l'autre en phase de groupe de la Ligue des Nations, ça c'était hier. Parmi les traits d'union entre ces deux matchs, il y en a un qui a retenu notre attention, la présence en tribune d'un certain Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Salut Hugo, salut à tous. C'était deux stades, deux ambiances en fait, entre Moscou et Saint-Denis.
On imagine bien. Racontez-nous justement cette soirée à Saint-Denis pour RFI dans un stade de France vide. C'était hier soir, crise sanitaire oblige, hein, voilà pourquoi il n'y avait pas de public. Et cette impression de déjà-vu qui vous a envahi, qui nous a tous un petit peu envahi?
Elle nous a envahi d'autant plus que les Français ont joué exactement comme ils avaient joué contre la Croatie, c'est-à-dire que ils ont eu du mal en première période, ils ont été dominés et ils sont arrivés au vestiaire avec un avantage quasiment immérité de 2-1 avec des buts de Griezmann et un contre son camp de Livakovic contre un petit bijou de Lovren au quart d'heure de jeu qui arrive quand même, alors qu'il est défenseur, à crocheter Lucas Hernandez, beau geste technique. Et puis ensuite une seconde période que les Bleus ont mal commencé aussi, en prenant là aussi un chef-d'œuvre de Brekalo, l'attaquant de Wolfsburg, avant que tout se renverse encore une fois. Les Bleus étaient inquiétants, ils sont devenus renversants grâce à Upamecano, son premier but en bleu sur corner, et puis Olivier Giroud sur penalty pour nous offrir une redite de cette finale de 2018 et un 4-2.
Mauvais remake ou remake un petit peu au rabais, Abibay, c'est également l'impression que vous avez eue. C'est vrai qu'il y a des similitudes assez surprenantes entre ces deux matchs, malgré les contextes évidemment très différents.
Oui, j'ai pris du plaisir à voir les sorties de balles de la Croatie. Déjà pour moi qui aime le football, ça m'a.
Ils avaient bien joué également
en
finale.
Oui, c'est une équipe qui joue très très bien en football, qui est défensivement assez friable, mais qui joue bien en football. Donc forcément, le football d'aujourd'hui est un petit peu différent en termes d'ambiance. Je trouve qu'encore une fois, on est très très dur avec l'équipe de France, parce que c'est vrai qu'on juge la qualité de jeu, il faut aussi y intégrer le résultat. C'est une équipe qui est championne du monde, qui gagne encore hier, alors elle gagne à sa manière, mais en même temps, les gens sont surpris de voir cette équipe de France ne pas produire de jeu. Lorsqu'on regarde toutes les confrontations qu'a eu cette équipe de France à jouer, très souvent l'adversaire est supérieur en termes de qualité de jeu, mais par contre c'est toujours l'équipe de France qui gagne, donc ça se récompense, et il faut aussi en parler, ne pas voir que le côté négatif de la qualité de jeu produit par l'équipe de Didier Deschamps.
Un motif récurrent, des questions récurrentes posées à Didier Deschamps en conférence de presse, et donc des réponses un petit peu récurrentes.
La première demi-heure, oui, on a été en difficulté parce que nous on n'était pas trop dans le rythme, certainement le mérite des Croates qui après la gifle qu'ils avaient pris au Portugal ont mis beaucoup d'agressivité, en plus c'est des bons joueurs, donc on perdait les duels, on était timide sur le plan technique, on a fait quelques erreurs, donc au bout de 30 minutes on a repris le dessus, rentré à la mi-temps après ces 30 premières minutes et mené 2-1, c'est plutôt flatteur pour nous. Et on a eu quelques situations qu'on a concédées. Ça vient certainement aussi à la qualité des joueurs offensifs de la Croatie.
Constat lucide de Didier Deschamps, il ne peut pas vraiment dire autre chose. Et du coup, ça va s'amplifier peut-être ce phénomène qui voit l'équipe de France, malgré tous ses succès, être critiquée pour le contenu. Est-ce que vous faites partie, comme Habib Bey, de ceux qui ont plutôt envie de la défendre?
Moi, j'étais au stade de France hier, et effectivement, j'ai été très déçu par la première période de l'équipe de France. Mis à part le résultat, il n'y avait pas grand-chose à retenir. En revanche, la deuxième période a été plutôt intéressante, parce qu'il y a eu une espèce de révolte. On a eu le sentiment vraiment que les Bleus, surtout après le but égalisateur des Croates de Brekalo, sont repartis à l'attaque. Griezmann a été plutôt inspiré, surtout par rapport au match médiocre qu'il avait produit en Suède. Cette équipe de France est allée de l'avant. On a vu la rentrée de Kamavinga, mais je crois qu'on va y revenir. Enfin bref, Ben Yedder a été très collectif, très altruiste dans un rôle d'avant-centre pas évident pour lui, parce qu'il a pas vraiment le même gabarit que Giroud, et donc c'est pas vraiment les mêmes automatismes que peuvent avoir les autres joueurs de l'équipe de France avec lui que ceux qu'ils ont avec Giroud. Donc, et puis un très bon Lloris. Moi, ce qui m'a frappé le plus, puisqu'on parlait un peu du huis clos, c'est que justement on entendait bien la communication, et souvent on pointe du doigt la discrétion, la réserve du Hugo Lloris, et là on l'entendait, mais c'est lui qui parlait le plus sur le terrain et qui en permanence replaçait ses joueurs, et c'est là qu'on voit effectivement l'importance du capitaine des Bleus dans ce groupe.
Philippe Doucet, quels enseignements tirer de ce match qui suit une autre victoire en Ligue des Nations contre la Suède il y a quelques jours?
L'enseignement numéro un, je crois qu'Habib l'a dit, c'est que quelles que soient les circonstances, quels que soient les types de matchs, c'est-à-dire contre la Suède, rien des deux côtés, un match où il ne s'est rien passé du tout, pas d'occasion, un match plutôt fermé, mais du coup une équipe de France solide, elle gagne dans ce registre-là. Là, elle est beaucoup moins rigoureuse, beaucoup plus friable, elle laisse beaucoup d'occasions aux autres, mais il se trouve que ces individualités devant font que à chaque fois qu'elle passe le milieu de terrain, elle marque. Donc voilà, elle a des vertus qui font que finalement, dans un peu tous les scénarios, elle arrive à gagner des matchs, même si on en sort en n'étant pas émerveillé par le football pratiqué. Donc les enseignements, c'est le premier, c'est ça, c'est que l'efficacité, elle est toujours là, parce qu'il y a des individualités, on peut raconter l'histoire de plein de manières. Les deux buts que marque l'équipe de France en fin de première période, c'est parce que vous avez des individualités qui font que même si le collectif n'est pas terrible, il y a un moment où vous allez marquer des buts, vous créez malgré tout quelques occasions et marquer. Et puis le deuxième enseignement, c'est que il serait très sévère de juger, alors que les états de forme, il y a des tas de joueurs qui n'ont pas commencé la saison, enfin qui ont vaguement fini la précédente, mais qui n'ont pas fini la nouvelle. Les trois quarts des joueurs qui sont là sont évidemment pas du tout à leur niveau. Alors ça vaut aussi pour les Croates, bien évidemment, mais c'est des matchs très particuliers. Il nous viendrait pas à l'idée, enfin, je crois, j'espère, qu'il nous viendrait pas à l'idée quand on jouait, l'équipe de France jouait le 15 août,
d'autres époques.
On n'en tirait pas d'enseignement majeur. Et là, c'est un peu le cas. C'est que les joueurs n'ont même pas repris, quoi.
Alors, normalement, c'est quand même une compétition officielle. On parle des individualités, mais il y a eu un projet collectif qui a été instauré par Didier Deschamps. Un projet tactique, en tout cas, Antoine Grenier. Un nouveau schéma, 3-5-2. Est-ce qu'il vous a convaincu?
Bah, si on regarde les deux matchs, il y a encore beaucoup de boulot pour bien assimiler du côté de l'équipe de France ce système qui est très différent de ce qu'utilisait jusqu'ici Didier Deschamps, plutôt en 4-3-3. Là, on se retrouve avec trois défenseurs centraux qui ont énormément de responsabilités et ajouté à ça que Didier Deschamps a titularisé notamment Dayot Upamecano qui était un débutant, bah, forcément il y a beaucoup de réglages et puis il y a énormément aussi de travail parce que cette équipe de France n'a a priori, en tout cas pas pour l'instant, les ailiers, les latéraux pour pouvoir briller dans ce système-là.
Vous l'avez pratiqué, vous, en tant que joueur?
Oui, je l'ai pratiqué, mais c'est surtout que je suis un petit peu lassé de toutes ces discussions en fait sur les systèmes et sur on change de système. En fait, on regarde aujourd'hui toutes les équipes en Europe qui changent de système et qui changent d'animation, mais vous vous rendez compte qu'ils gardent les mêmes principes à l'intérieur de ces systèmes-là. Lorsque vous voyez Guardiola passer de 4-3-3 au 4-4-2, ces principes sont identiques. Lorsqu'on regarde l'équipe de France hier, elle joue à 3 ou à 5 comme on veut le voir. Mais quels sont les principes de cette équipe? Lorsqu'on voit les principes de ce système, sont pour moi identiques aux principes qu'avait Deschamps dans les systèmes précédents. C'est-à-dire qu'il part du principe que la clé de voûte de son équipe, bah, c'est un peu Griezmann, c'était déjà le cas dans son système avant. Il part du principe que son équipe doit être solide défensivement. C'était également ce qu'il faisait dans les autres systèmes et dans les autres animations précédentes. Et c'est un petit peu le cas pour toutes les équipes. Quand vous voulez révolutionner en quelque sorte votre système et son animation, il faut à un moment donné modifier les hommes. On a beau aujourd'hui mettre Lucas Digne ou Ferland Mendy, je suis pas sûr que les deux joueurs vont vous changer votre animation du tout au tout. Donc c'est plus ou moins similaire. Et ce sur quoi il faut se concentrer, c'est de dire pourquoi cette équipe arrive à gagner dans toutes les situations dans lesquelles elle se trouve. C'est pas la chance, parce que sinon ça serait assez incroyable. C'est forcément que derrière il y a quelque chose. Et comme on le dit, elle est très souvent sauvée par son talent et les individualités qui composent cette équipe. Ça a été le cas en Coupe du Monde. Lorsque vous voyez l'Argentine, je suis désolé, si vous me dites que la victoire, elle est collective dans le sens, mais sur le match, on voit une frappe exceptionnelle de Pavard, c'est lié au talent de Pavard à ce moment-là. On voit Mbappé qui fait reculer une équipe sur 50 mètres, c'est aussi lié au talent de Kylian Mbappé. Donc, quand on a ancré ça dans notre tête, et dans le football, et c'est pas le football de l'équipe de France, c'est le football en Europe et dans le monde qui vous le montre, les systèmes, ils ont changé à travers le monde. Je pense que Philippe vous en parlera. Il y a eu un livre qui a été fait sur les systèmes avec le WM. Vous voyez que tout revient en quelque sorte de ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait l'Ajax dans les années, je ne sais pas, 70. On a eu le Brésil à un moment donné. Et puis ça revient avec des cycles. Mais c'est toujours la même chose, en fait.
L'équipe de France n'a jamais joué comme ça en 3-5-2. Et franchement, alors 3-5-2 ou 5-3-2.
Donc ça vous a paru un peu gadget?
Ah, moi, ça m'a paru totalement nul, carrément. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais moi, j'étais au Stade de France. C'était évident. Vous voyez, il y avait un gros trou. Vous aviez les trois attaquants, donc Griezmann, Ben Yedder et Martial. Et derrière, un énorme trou, parce qu'effectivement, les deux milieux, Nzonzi et N'Golo Kanté passaient leur temps à galoper pour boucher les trous. Et derrière, vous avez les trois centraux qui bougeaient pas, qui osaient pas bouger. Alors une fois, je crois que Hernandez est monté un petit peu, mais sinon, ils étaient là, ils bougeaient pas. Donc en fait, quel est le constat de ce choix tactique? C'est-à-dire que cette équipe de France, déjà un peu défensive, on a enlevé un attaquant pour mettre un défenseur central en plus qui en grande partie ne sert à rien. Parce que si vous regardez et coach Habib l'expliquait très bien, mais si vous regardez le fonctionnement de l'équipe de France, il y avait Griezmann derrière Giroud, et puis de chaque côté, il y avait des attaquants, ouais, ou censés être attaquants. Matuidi plus ou moins repositionner un rôle qu'il occupait déjà, ouais, au PSG, de couloir gauche, et puis à droite, en général, Mbappé. Et puis vous pouvez jongler avec comment, avec qui connaît, comme on l'a vu ces derniers mois. Eh bien là, non, on a trois attaquants qui sont devant, débrouillez-vous, ils ont du talent, ils marquent, effectivement, puis après vous avez un grand trou, et puis vous avez le reste. Eh ben franchement, moi, ce système de jeu ne m'a absolument pas convaincu.
Si tu reprends la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu as eu à la Coupe du Monde? Tu as eu trois attaquants et un gros trou, et à un moment donné, des joueurs qui défendaient. Je suis pas sûr de voir aujourd'hui une équipe de France qui est différente. Et quand tu
avec
parles
Pogba
de
Pogba et Matuidi, il y avait un peu plus de lien quand même.
Du lien entre les deux?
Ouais.
Non, je pense qu'il y avait du lien côté gauche parce que Matuidi avait l'activité sur ce côté gauche, mais je suis pas sûr qu'il y avait du lien entre Pogba et Matuidi. Je pense que ce sont deux joueurs qui sont éventuellement complémentaires.
Pogba et Griezmann.
Oui, mais bon, après, on va aujourd'hui, tu l'auras quand Pogba va revenir. Ce que je veux dire, c'est que si on doit se poser la question, c'est qu'il prépare forcément quelque chose. Si aujourd'hui il passe avec ce système à 3, c'est qu'il entrevoit quelque chose pour le futur, pas pour la Ligue des Nations.
Allez, le collectif, c'est bien, mais on l'a dit, Philippe l'a dit, il faut parler aussi des performances individuelles. C'est aussi ces performances qui font gagner l'équipe de France. Il y a les joueurs qu'on encense, ceux qu'on n'encense pas. Alors on va d'abord parler des petits nouveaux, d'un petit nouveau notamment, Eduardo Camavinga, la merveille, j'en fais à peine trop. Et il n'a pas le droit de conduire, il n'a pas encore le droit de voter, il n'était pas encore né lorsqu'un certain Habib Bey atteignait les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2002. Il porte déjà le maillot bleu. Est-ce qu'on peut l'écouter, Eduardo Camavinga? Ça y est.
Franchement, ouais, c'était de la joie, de l'honneur et de la fierté pour ma famille. Et bah, j'espère en connaître d'autres. Ouais, quand tu rentres sur le terrain, tu penses à quoi? Bah, jouer comme je sais le faire, sans pression et apporter une plus-value à l'équipe. Bah, je me suis senti très bien. On m'a mis à l'aise directement, on m'a donné les ballons. Je me suis mis en confiance au fur et à mesure et ça s'est très bien passé. Oh non, moi je suis comme ça. C'est vrai, bah, il faut pas trop se prendre la tête, comme je l'ai dit, et je joue son jeu.
Antoine Grenier, vous l'avez vu à l'œuvre hier, Eduardo Camavinga entré en jeu à la place de Kanté, peu après la 60e minute. Vous en avez pensé quoi?
Bah, si on devait être méchant, on dirait qu'il faut quand même être quelqu'un pour ringardiser Kylian Mbappé. C'est-à-dire, il y a 3 ans, Kylian Mbappé commençait, il avait 18 ans, l'équipe de France, c'était la star. Et à peine 3 ans plus tard, on se retrouve avec Eduardo Camavinga, un an, une saison de Ligue 1 dans les pattes, une très bonne saison, mais une saison seulement. Et là, il rentre en compagnie d'Olivier Giroud. D'ailleurs, ils rentrent tous les deux en même temps à la 77e minute. Et là, le gamin, il se place, il accélère quand il veut. Il se procure même une occasion avec une frappe depuis l'entrée de la surface. Enfin, il y a énormément de culot, mais il y a aussi énormément de sérieux chez Eduardo Camavinga. On a hâte de le revoir en équipe de France. On a hâte de le voir associé à d'autres joueurs que Steven Zonzi. Ça permettrait à l'équipe de France d'atteindre encore un autre niveau.
Philippe Douce, Eduardo Camavinga, plus jeune international français de l'après-guerre. Vous l'avez trouvé comment et vous attendez quoi de ce joueur? Il impressionne, c'est évident.
Bah, dès la première fois où on l'a vu jouer, moi je me rappelle très bien d'Athem.
Il joue avec Rennes, hein, je ne sais pas si on l'a précisé, tellement ça paraît évident.
Oui. Non, c'est bien qu'il y soit resté aussi, parce que parfois il y a des gens qui, au bout de 3 mois où il brille quelque part, tout de suite, on les propose à l'autre bout de la planète. Donc c'est déjà bien qu'il soit resté, qu'il soit conscient qu'il a encore besoin un peu de temps pour progresser, parce qu'il a fait un an de pro. Mais je me rappelle très bien d'Athem Ben Arfa qui en parlait avant même qu'il joue, en disant mais on a un phénomène, je ne comprends même pas que l'entraîneur ne le fasse pas jouer, etc. Bon, on peut pas en vouloir à Julien Stéphan, il attendait.
Donc il sait ce que c'est de se brûler les ailes, etc.
Athem, bien sûr, Athem a été brillant trop tôt, absolument. Et c'est vrai que dès la première fois où je l'ai vu, mais je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde, parce qu'il saute aux yeux de tout le monde, je veux dire, c'est un gamin exceptionnel. Dès la première fois, on se dit, bon là, on a affaire à quelqu'un qui va faire aimer l'équipe dans laquelle il joue. S'il y a un garçon qui peut faire aimer l'équipe de France, ça peut être lui. Ça peut être le lien d'abord par ses qualités dans le jeu et ça peut être le lien, le milieu de terrain qui manque un peu à cette équipe. Mais en plus, il a une cote de sympathie, il apporte une fraîcheur qui est formidable.
Un conseil de grand frère peut-être pour Eduardo Camavinga, Habib Bey, pour
continuer à avoir cette insouciance et de surtout être hermétique à tout ce qui va lui arriver dans les prochains mois, parce que la vraie problématique, c'est que lorsque vous êtes dans son cas, et ça a été le cas pour Kylian Mbappé, c'est qu'au départ, on dit vous êtes le petit nouveau, vous avez le droit de temps en temps d'avoir des moments un peu moins bien, on ne vous juge pas là-dessus, et puis un jour, d'un seul coup, on décrète que vous êtes une star mondiale. C'est un peu son cas. Aujourd'hui, on parle déjà de lui comme un joueur de classe mondiale. Moi, j'ai dit dans une émission récemment qu'il avait tout le talent, en tout cas, et toutes les aptitudes d'un joueur de classe mondiale. Ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui se donne du temps, qui est un créateur d'espace pour les autres, qui attire le ballon naturellement, c'est-à-dire peu importe où il joue, on lui donne, il a la confiance de ses partenaires, mais encore une fois, pour atteindre ce niveau des joueurs de classe mondiale, il faut répéter en fait ses performances tous les 3 jours, au plus haut niveau, avec une pression sur les épaules, qu'elle soit médiatique, mais également de tout ce qui va lui arriver avec les transferts, les sollicitations. C'est un joueur, comme l'a dit aujourd'hui Philippe, qui a un talent exceptionnel et qui est tellement intelligent qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, il a 3-4 mètres devant lui. Mais c'est parce qu'il a l'intelligence d'aller se placer dans les espaces libres. Donc lui, c'est un joueur hors norme.
Habib Bey, je vous coupe. Gaël Kakuta nous attend.
1, 2, 3. Oh, that is superb, Kakuta. Unbelievable.
Oh, ce dribble de Kakuta.
And it's Kakuta, what a time for your first goal of the season. And what a time in this match.
Rayo Vallecano. Marca por segunda jornada consecutiva Gael Kakuta.
Kakuta.
Kakuta! Gael Kakuta! Gael Kakuta!
Ayule Kakuta!
kuoni tamu kweli kweli, wanasema fimbu.
Kizaza umelipata fimbu.
Quel joli geste de Kakuta utile.
Gael Kakuta 2-0.
Bonjour Gael Kakuta.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes pressé, donc on a effectué une transition un petit peu abrupte. On aura le temps de développer votre parcours. Les gens vous connaissent quand même assez bien. Vous êtes effectivement rapide, fin, technique, 29 ans. Un joueur passé par énormément de clubs, parti de Lens pour revenir à Lens cet été. Premier match, premier but il y a quelques semaines contre Nice. Et demain, vous affrontez le PSG dans un bollard que vous auriez peut-être aimé découvrir 13 ans après votre départ. Plein, malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'enfin porter le maillot son et or et de le porter enfin à domicile demain contre le PSG, certes privé de certaines stars, mais le PSG tout de même.
Oui, comme vous avez dit, ça reste le PSG. Mais bon, c'est pas avec les joueurs qu'on aurait aimé voir sur le terrain. Mais bon, comme j'ai dit, ça reste un match important. C'est une énorme fierté de porter le maillot sans erreur. Après, voilà, je suis parti comme je suis parti. Mais bon, je suis très heureux d'être de retour au club.
Alors, de retour, après l'avoir quitté à peine mineur, vous êtes passé par Chelsea, de nombreux clubs.
Puisqu'il l'évoque, j'ai envie de lui poser la question quand même à Gael Kakuta. Comment s'est passé ce retour? Parce que vous êtes quand même parti du Racing Club de Lens en refusant de signer votre premier contrat pro et en partant à Chelsea. Donc forcément, les formateurs à Lens n'avaient pas bien pris ce départ.
Bon, après, ça va être un peu compliqué d'aborder ce sujet aujourd'hui. Je vais plutôt parler du match de demain.
Ouais, soyons pas trop longs. Mais en tout cas, vous êtes excité d'aider Lens. Le match de demain, vous espérez faire un exploit. Et plus généralement, quelles sont vos ambitions avec cette place forte du football français qui a pas mal galéré depuis 10 ans, même un peu plus, Lens, et qui veut se stabiliser, redevenir une place forte du championnat de France?
Ben, comme vous avez vu, on a montré de belles choses dès le premier match. Donc l'équipe est motivée pour bien commencer le championnat et commencer bien le championnat et se maintenir. Donc on va faire le maximum pour bien faire les choses et sortir les crocs dès le début du championnat, quoi, comme on a pu le montrer dès le premier match.
Philippe Doucet, une question pour Gael Kakuta.
Oui, sur la RDC, parce que l'Afrique est à l'arrêt complet. Malheureusement, il n'y a plus de match depuis novembre 2019, sauf erreur de ma part. Est-ce que vous attendez avec impatience de rejouer avec cette sélection, puisque peut-être y aura-t-il des matchs amicaux en octobre? Vous avez déjà eu des contacts là-dessus?
Pas encore, mais je pense qu'ils vont organiser quelque chose pour que le groupe puisse se rassembler continuer à préparer les compétitions, que ce soit de la CAN ou du Mondial. Donc je pense qu'il y aura sûrement un rassemblement en octobre.
Retrouver l'équipe nationale avec laquelle vous apparaissez puis vous disparaissez, c'est aussi l'un des objectifs de cette partie-là de votre carrière. Vous avez 29 ans et vous rêvez de briller aussi avec le maillot des Léopards.
Oui, bien sûr, ça reste la raison pour laquelle j'ai voulu avoir cette expérience internationale. Et je pense qu'on a un bon petit groupe qui commence à se créer. Il y a des joueurs très intéressants aussi qui commencent à rejoindre le groupe. Donc voilà, on était à deux doigts de se qualifier pour la Coupe du Monde et je pense qu'il y a de belles choses à faire.
Habib Bey, vous avez envie de parler à Gael Kakuta, que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser dans votre carrière?
Oui, non, je pense pas qu'on se soit croisé, mais ce qui est sûr, c'est que j'apprécie beaucoup le joueur, la qualité de Gael. Je trouve que c'est un joueur qui est fin, qui provoque, qui offre du spectacle justement lorsqu'il joue. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que maintenant il a de la maturité et ce qu'il veut, c'est enchaîner les bonnes performances de façon à mettre Lens dans de bonnes dispositions. Il a la chance d'avoir un entraîneur adjoint que je connais très très bien, Alou Diarra, qui est un ami, et j'espère que pour les Lensois, ils feront une bonne saison. C'est un club que j'ai rêvé de revoir en Ligue 1. Je pense que c'est un club avec lequel on a grandi, c'était toujours difficile pour nous, quand j'étais à Marseille, par exemple, de jouer contre Lens. Donc je leur souhaite la meilleure saison possible, et à Gael également.
Gael Kakuta, vos objectifs, voilà, vous avez eu une carrière assez incroyable finalement, assez exceptionnelle, puisque vous êtes passé par beaucoup de championnats, plusieurs continents, plusieurs clubs, plus d'une dizaine. Maintenant, à 29 ans, quelque part, quel bilan tirer de cette carrière et qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Peut-être vous stabiliser à Lens, là où ça a commencé quelque part, et montrer que voilà, votre carrière n'est pas une déception, mais c'est un cheminement qui vous a amené à faire de belles choses.
Non, après, personnellement, voilà, j'ai beaucoup voyagé, certes, mais je regrette pas du tout mon parcours. Comme j'ai toujours dit, je garde le positif et j'avance. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir revenir à Lens. Ça a toujours été dans le coin de ma tête. Et voilà, je profite et comme vous avez dit, je vais faire le maximum pour aider le club à atteindre ses objectifs.
Gaël, justement, chaque fois que vous êtes revenu en France, donc à Amiens en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Et est-ce que ces expériences à Amiens qui luttaient pour le maintien, qui n'a pas pu se maintenir la saison dernière mais qui l'avait réussi il y a 2 ans, est-ce que c'est justement du vécu qui peut que aider le Racing Club de Lens dans son objectif maintien cette saison?
J'espère. Après, vous connaissez bien le football. Si on fait le travail tous ensemble, c'est plus que faisable. Il faut juste passer par pied. Après, oui, je vais apporter ma petite expérience que j'ai eue avec, que j'ai pu avoir dans les clubs qui ont joué le maintien, en espérant que ça aide l'équipe.
Merci Gaël Kakuta. Je sais que vous êtes pressé, alors on va vous libérer et vous remercier d'avoir décroché votre téléphone. On a un peu bousculé notre programme pour s'accorder au vôtre et ça valait le coup. Vous avez été très aimable, très sympa tout simplement d'accepter notre invitation. On vous souhaite bon courage pour le match de demain et pour la saison qui vient. Enfin une saison de Gaël Kakuta sous les couleurs lensoises. Merci.
Merci à vous, bonne soirée.
Gaël Kakuta qu'on remercie. On va remercier également Antoine Grenier qui était avec nous juste avant qu'on prenne Gaël Kakuta au téléphone pour nous parler de l'équipe de France. Un petit mot peut-être d'introduction, on n'a pas forcément eu le temps de la faire, c'est une émission un peu cubiste, on s'adapte aux circonstances sur Gaël Kakuta. Donc on va rappeler, on l'a rappelé en creux lors de l'interview, Xavier Barré, son parcours. Encore mineur, il quitte Lens. Ouais. Chelsea, transfert se passe pas très bien, il y a un conflit juridique même.
Ça va même au TAS. Chelsea est d'ailleurs suspendu pour cette opération. Ils seront blanchis en appel parce qu'ils avaient été privés de transfert pendant deux mercato.
Finalement. Lui-même est suspendu.
Lui-même est également sanctionné. Finalement, à Chelsea, il joue en tout et pour tout 16 bouts de match et il est l'objet pendant son contrat très lucratif à Chelsea de 6 prêts différents, dont un à Dijon. Il avait fait un bref retour en France.
Il passe aussi par les Pays-Bas, par
Vitesse Arnhem. Qui était le club filiale de Chelsea, il va en Espagne, ensuite il retourne en Espagne mais à Séville, après il part en Chine au Hebei, et puis de là il est prêté au Deportivo La Corogne, à Amiens une première fois, il revient au Rayo Vallecano et là il était à Amiens la saison dernière. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de regrets quand on voit ce parcours, de se dire si c'était stabilisé déjà, je pense que s'il était resté à Lens un petit peu dans ses jeunes années, il aurait sûrement gagné en perspective de continuité dans son développement. Et puis surtout ensuite on se dit s'il avait pu se stabiliser quelque part compte tenu du talent, Habib le rappelait, c'est un gamin qui avait un talent fou. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro 19 ans, il y a 10 ans, devant les Griezmann, les Lacazette, les Bakambu,
qui faisait partie de son équipe,
qui était dans son équipe, c'était le plus fort. Et puis là, on a un peu le sentiment quand même qu'il a gâché son talent.
Et demain, il affronte le PSG avec Lens. Il avait marqué un très beau but d'ailleurs contre le PSG la saison passée. On aurait pu lui en parler, mais on était un peu pressé. Mais il y avait une transition presque toute faite. Vous parliez juste avant qu'on prenne Gaël Kakuta au téléphone de Kamavinga, de ces joueurs qui doivent franchir ce pas, grand espoir, joueur confirmé. Et là, on a un exemple de joueur pour lequel ça s'est pas passé tout à fait comme prévu à Habib Bey.
Non, mais est-ce qu'on peut en vouloir à un jeune joueur qui est à Lens et qui voit Chelsea arriver au moment où ça arrive? C'est une équipe qui est sûrement l'une des équipes les plus riches du monde, je me trompe pas, avec Abramovich, avec des joueurs extraordinaires,
notamment des internationaux africains.
À ce moment-là, est-ce que le projet français, on lui permet d'avoir du temps de jeu à un niveau élevé? Je ne crois pas à ce moment-là à Lens. Kamavinga, c'est autre chose. Kamavinga, Rennes lui propose de rester à Rennes en jouant la Ligue des Champions. Ouais. C'est pas du tout le même projet. Et en plus, il est déjà titulaire dans cette équipe de Rennes. Donc je pense que c'est deux choses qu'il faut pas comparer. Après, dire que s'il était resté à Lens, il aurait fait une meilleure carrière. Je pense que oui, il a tenté de se stabiliser, mais à chaque fois, les projets n'ont pas été sûrement au niveau de ses attentes à lui. On dit souvent que forcément le talent est gâché lorsque vous faites autant de clubs. On peut avoir ce constat aujourd'hui de dire que, au vu du talent du garçon, on aurait aimé le voir dans une équipe bien plus forte pendant plusieurs années. Le plus important pour lui, c'est que quand on le voit aujourd'hui à 29 ans, on sent un petit peu plus de maturité. Et comme vous l'avez dit, et ça c'est peut-être le plus important au-delà du fait qu'il aurait pu jouer au Real, au Barça ou ailleurs, maintenant l'histoire on la refait pas, c'est qu'il a quand même été performant avec Amiens et on souhaite le voir aussi performant avec Amiens qu'il le sera avec Lens cette année.
Philippe Doucet, faut pas être trop dur, faut pas forcément faire un symbole d'une certaine faille du système français ou faut pas forcément le prendre en exemple ou en contre-exemple de carrière. Faut aussi apprécier le talent de Gaël Kakuta qui est certain, on l'a vu par intermittence en France et on le voit également sur le continent africain.
D'abord, c'est difficile de juger. Peut-être qu'à l'époque, des clubs comme Lens, il y en avait un certain nombre, ne mettaient pas assez d'argent sur les jeunes. On avait tendance à considérer que quand on avait formé un jeune, Bon, bah, il devait suivre la charte. Bon, ok, on rajoutait une prime à signature, mais on ne mettait peut-être pas assez d'argent. Ça remonte, à mon avis, à. Déjà, mon discours remonte quand même
son
à pas mal
d'années. Son départ 2007, hein, j'ai dit, c'était
il y a
13 ans.
On a beaucoup plus intégré. Maintenant, c'est beaucoup plus intégré dans le football français. Peut-être le club ferait pas la même erreur. Mais après, sur le jugement qu'on peut porter sur le joueur lui-même, évidemment, avec le recul, on se dit, bah, il aurait pas dû. Mais peut-être qu'il avait pas la maturité nécessaire à l'époque. Peut-être que, comme dit Habib, il s'est retrouvé devant une proposition de Chelsea. Il s'est dit, je vais grandir là-bas. Peut-être pas jouer tout de suite, mais c'est pas grave. Je grandirai au contact des... Chacun son parcours, chacun son chemin. Il y a des chansons comme ça, d'ailleurs, qui disent un petit peu ça.
Vous avez raté votre vocation. Peut-être que c'est vous l'espoir déchu.
Je vais écrire. Je vais me mettre à écrire. Non, mais voilà. Bon, il faut, effectivement, ça sert à rien de juger. Tout le monde n'est pas fait sur le nombre de joueurs qu'on annonce comme des futurs grands. Heureusement qu'ils ne deviennent pas tous des futurs grands, parce que qu'est-ce qu'on ferait s'ils devenaient tous Messi et Ronaldo?
Peut-être un championnat,
ce serait
de Ligue 1.
Très compliqué.
On aurait peut-être un championnat de Ligue 1 plus intéressant, hein, quand
ah,
même, s'il y avait plus de talent
plus
en Ligue 1.
Oui,
bah oui,
oui,
oui, mais oui,
c'est pas son nom officieux.
Vous dites qu'il est parti tôt, mais il est parti à 16 ans, Kamavinga, il en a 17. Et s'il part de Rennes, il en partira à 18. Ces deux années-là, ça compte, Habib. Ça compte. Et c'est là où je regrette qu'il soit parti si tôt.
Est-ce que tu as connaissance du salaire de Kamavinga aujourd'hui à Rennes?
Non, mais...
Oui, donc je pense qu'à un moment donné, Rennes a fait l'effort d'eux. Rennes a un projet sportif à proposer à Kamavinga, qui est quand même la Ligue des Champions, même si tu le fais avec Rennes. C'est du temps de jeu, c'est t'aguerrir, c'est te montrer encore plus. Rennes a l'opportunité aussi de le vendre beaucoup plus cher. Et puis surtout, à un moment donné, c'est vrai qu'on est en train de comparer tous les jeunes joueurs qu'on a aujourd'hui. Il y a des très bons jeunes joueurs en France, tu sais très bien. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde dit Mbappé sera un crack. Il est un crack, mais il faut qu'il le soit jusqu'à 35 ans. Il peut se passer plein de choses, les blessures. Et aujourd'hui, on est certain de rien. Et c'est vrai que bon, Kakuta avait un talent exceptionnel, il l'a toujours. Et il n'a pas eu la carrière en fonction de son talent pour l'instant. Je suis d'accord avec toi.
Bon, sur le Facebook de Radio Foot, Jean-Clovis Siao nous a écrit: Gaël Kakuta, un joueur très talentueux, il aurait pu mener une grande carrière, mais souvent le talent à lui seul ne suffit pas. J'adore son toucher de balle soigneux. Soigneux. On choisira. Ça donne soigneux, Jean-Clovis. Notre commentaire sur la page Radio Foot. Effectivement, le talent ne suffit pas. Il faut aussi du travail. Et quand on parle travail, on parle forcément Cristiano Ronaldo.
Uma linda história que pode chegar ao centésimo gol agora. Lá vem ele, pé direito! Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa!
Sim!
Félix vai chegar pra ele. Cristiano bateu, golaço!
On parlait de l'équipe de France tout à l'heure. La France deuxième de son groupe en Ligue des Nations, derrière un Portugal qui sera son prochain adversaire en octobre. Portugal qui en a passé 4 également à la Croatie il y a quelques jours, avant d'en mettre 2 à la Suède, en Suède hier, grâce à Cristiano Ronaldo. Doublé, lucarne nettoyée de chaque côté du terrain, comme ça c'est du propre. Un coup franc en première, une frappe d'une pureté admirable en seconde, 100e et 101e but sous les couleurs du Portugal pour Cristiano Ronaldo. Deuxième joueur de l'histoire à dépasser la barre des 100 réalisations en sélection. 165 sélections en tout, hein, pour Ronaldo, pour 101 buts. Le record, 109 réalisations pour un Iranien. C'est un peu votre spécialité, le foot asiatique.
Ali Daï, mais surtout parce que je l'avais rencontré plusieurs fois, puisqu'en 1998, il avait conduit l'équipe d'Iran à la Coupe du Monde en France. Et puis ensuite, il a été parti à l'Arminia de Bielefeld, en Bundesliga, et au Bayern. Et il avait joué là, enfin il n'avait pas joué, lui était resté sur le banc lors de la finale de la Ligue des Champions 1999, perdu par le Bayern dans les ultimes minutes contre Manchester United à Barcelone.
Son record, Ali Daï, qui avait une belle moustache comme vous aujourd'hui, 109 réalisations en 149 sélections. Est-ce que atteindre ce record, voire le dépasser, 109 buts avec son équipe nationale, ce sera une formalité pour Cristiano Ronaldo, vu le train qu'il mène à Bibay?
Oui, clairement, ce sera une formalité. Je pense que ce garçon-là, un peu à l'image de Messi, il y en a très très peu dans l'histoire du foot, a mis ce sport dans une autre sphère, une autre galaxie. Clairement, en termes de statistiques, c'est juste hors norme. C'est hors norme de voir un joueur qui vieillit et qui continue à être aussi efficace, aussi stratosphérique.
Il en est à combien, 35 ans?
Oui, 34 ou 35, mais ce que je veux dire, c'est que bah, le Portugal sans Cristiano Ronaldo ne serait pas le Portugal d'aujourd'hui. Il est, je trouve, un petit peu plus relax depuis qu'il a gagné l'Euro, parce que forcément, il a enfin amené un titre à son équipe sans être sur le terrain.
Il y a les buts, mais il y a les trophées, avec cette Ligue des Nations d'ailleurs en 2019 et puis cet Euro en 2016. Donc c'est global, c'est une réussite en sélection qui est globale.
Oui, et puis je trouve qu'il a, il a un petit peu adouci le trait, à l'image d'hier lorsqu'il va voir le gardien. On sent que c'est, je sais pas, un sentiment d'apaisement en quelque sorte chez ce Cristiano Ronaldo là. Il parle moins des records, il continue à les battre, mais il va en Serie A, première année, 19 buts. Les gens disent bon bah ça y est, c'est terminé, c'est commencé à être sur le déclin. Et puis il revient l'année dernière, et puis je sais plus, il en enfile une trentaine presque ou 32. Non, moi je pars du principe qu'aujourd'hui ce sont des joueurs qu'on regrettera. C'est quelque sorte presque, je pense, que j'ai pas connu moi comme par exemple Philippe a pu connaître des Maradona ou mon papa a pu connaître les Pelé, mais quand je discute avec lui, il dit ce sont des gens, quand ils s'arrêtent, t'as une petite larme qui coule parce que tu te dis j'ai eu la chance de voir ça. On se dira la même chose avec Ronaldo et Messi. Ce sont des joueurs hors normes, d'une autre galaxie, d'un autre temps presque, on dirait.
La différence entre Cristiano Ronaldo et Messi, c'est que Cristiano Ronaldo a réussi avec le Portugal, ce que Messi n'a pas encore réussi avec l'Argentine. Parce que jusqu'à ce que Cristiano Ronaldo arrive, le Portugal n'avait jamais rien gagné, enfin en senior. Ils avaient été champions du monde deux fois dans les moins de 20, avec la fameuse génération dorée, mais ils n'avaient jamais réussi à s'imposer au plus haut niveau. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo, en gagnant cet Euro, même s'il a été rapidement blessé en finale, et cette Ligue des Nations, il a donné ses titres qui reste forcément accroché à son nom, parce que c'était lui le capitaine de l'équipe, c'était lui le leader de l'équipe. Maintenant, il faut quand même remarquer une chose, c'est que dans cette équipe du Portugal aujourd'hui, tout le monde joue pour lui. Enfin, ça fait déjà quelques temps d'ailleurs que cette équipe joue pour lui. Donc c'est plus facile effectivement pour lui de marquer ses buts, parce qu'il a vraiment un collectif qui est complètement...
Ce serait idiot de ne pas le faire d'ailleurs.
Oui, à part peut-être qu'un jour il faudra penser à la relève.
Il y a eu un débat après le match contre la Croatie gagné 4-1.
Il n'a pas joué.
Il n'a pas joué. Et il y a eu ce débat de savoir si au final le jeu ne serait pas plus abouti sans Cristiano Ronaldo. Débat auquel il a apporté sa contribution hier, une contribution assez claire.
Oui, à part que les Suédois ont quand même joué une mi-temps à 10. Donc forcément, ça a facilité la tâche du Portugal. Mais bon, non, mais c'est un joueur extraordinaire, on le sait. Maintenant, il faudra aussi un jour ou l'autre que les Portugais prennent l'habitude de jouer sans lui.
Ça arrivera.
En tout cas, les débats, est-ce que Cristiano Ronaldo est un atout ou pas, ça vous a fait sourire.
Bah oui, ça me fait marrer parce que ça fait 40 ans que j'entends ce genre de débat. Platini est blessé en 82.
Ça va libérer l'équipe de France.
Ah ben finalement, on bat l'Irlande du Nord, hein, quel exploit. 4-1 pendant ce temps-là, on dit, et j'ai lu dans des journaux dire, ah parce que est-ce que Platini est vraiment indispensable. Bon, quand on lit des conneries comme ça toute sa vie pendant 40 ans, qu'est-ce que vous voulez? Bon, celle-là en plus, pourquoi pas, hein.
C'est surtout qu'en football, on ne cesse d'encenser et de détruire ce qu'on a encensé hier.
Bien sûr.
C'est comme ça. C'est qu'on est dans le sensationnel et on oublie ce qui s'est passé la semaine d'avant. Mais c'est le métier qui veut ça. Après, il faut avoir une visibilité à long terme et se dire qu'ils sont humains aussi. Donc, ils ont des moments un peu moins bien. Ils ont des creux. Ce qu'on peut dire, c'est que ce que fait ce joueur-là, l'athlète qu'il est, les statistiques ne sont pas liées qu'à dans l'équipe dans laquelle il joue, parce que partout où il va, ça fonctionne et ils ont raison de jouer pour lui. Quand on voit hier, ils ont quand même des talents. Joao Félix, c'est un talent aujourd'hui qui peut arriver au Portugal, pas au niveau de Cristiano Ronaldo, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des talents. Cette équipe, elle est, je trouve, plus forte qu'elle ne l'était à l'Euro.
Oui, beaucoup.
Alors ça, c'est
beaucoup
intéressant, parce que les trois qui jouaient derrière lui, en l'occurrence, Bernardo Silva, Joao Félix et Bruno Fernandes, n'étaient pas à l'Euro.
Oui, bien sûr.
N'étaient pas à l'Euro.
Non, c'est une équipe.
Donc, c'est une
devenir.
Équipe, effectivement, où il y a du potentiel. Et moi, je pense que le débat est légitime aujourd'hui de se dire,
Non, tu peux pas dire ça.
Non, mais combien de temps Cristiano Ronaldo va être intouchable? Tu vois, il y a peut-être un moment.
Bah, ça, c'est le travail de Fernando Santos.
Absolument.
Le sélectionneur d'opérer la transition. Et peut-être qu'il est déjà en train de travailler à ça.
Je pense que c'est le problème de Ronaldo surtout. Lui, il va se fixer des objectifs. J'imagine qu'il s'imagine aller jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et puis derrière, il y aura un trou, parce que l'Euro sera 2024. Ce sera peut-être un petit peu loin. Peut-être qu'il arrêtera à ce moment-là.
Il aura 37 ans en 2022.
Hein. Oui. Bah, ça ne me fait pas très très peur pour lui.
Mais par exemple, quand on regarde aujourd'hui, sans comparer, Ibrahimovic qui a arrêté avec la Suède, je trouve que c'est dommage. Quand je vois le niveau de jeu qu'il a à Milan, je trouve dommage que la Suède aujourd'hui n'ait pas Ibrahimovic en pointe. Après, c'est un choix d'Ibrahimovic et un choix, je pense, aussi de faire la transition. Ouais. Mais il faut espérer que ces joueurs-là restent le plus longtemps possible avec leur sélection. Quand Messi s'est arrêté et que tout le monde s'est dit qu'il ne reviendra pas, on s'est rendu compte que bah, même si Messi n'avait pas fait gagner l'Argentine, il fallait que Messi soit avec l'Argentine. Mmh. Moi, je souhaite pas aujourd'hui qu'il y ait une transition Cristiano Ronaldo. Elle arrivera forcément, ce que disait aujourd'hui
Philippe. Je pense que c'est lui qui décidera.
C'est lui qui décidera et elle s'imposera avec le temps.
Il a déjà décidé à un moment, il n'avait pas arrêté la sélection, mais il a pris du recul. Il n'a pas joué pendant une année, je crois, après l'Euro,
Non, les matchs de l'automne, il n'avait pas joué.
Pas plus ? Il a fait une demi-année off. Parce que, à son âge, il commence à se dire que, en termes de rythme, le voyage sans arrêt, etc. Bon, il y avait besoin de sélectionner un petit peu les matchs. Bon, c'est lui qui décidera. C'est lui qui ira. Il ira jusqu'à l'objectif qu'il veut et le sélectionneur suivra. Vous verrez.
Si j'étais mauvais esprit, si je faisais du mauvais esprit, je dirais qu'il avait déjà pris du recul lors de la finale de l'Euro, qui a presque été remportée sans lui par le Portugal.
Il a coaché
contre la France et il avait déjà préparé sa reconversion. Le record a égalé, voire a dépassé 109 buts en sélection pour Cristiano Ronaldo. Eh bien, ce sera peut-être, en tout cas, il s'en approchera peut-être lors du match contre la France, début octobre, remake d'une autre finale, donc celle de l'Euro 2016. Et là, forcément, c'est un moins bon souvenir pour les Bleus. He's playing for Man City.
He's crossed to the back post. Kevin De Bruyne.
Qui refroidit évidemment l'Emirates Stadium. KDB. He's playing for Man City.
Lovely turn by De Bruyne. Danger here. Absolutely magnificent from Kevin De Bruyne.
Les Citizens, à l'image de leur numéro 17, en mode patron. 3-0.
A virtuoso display so far by the Belgian.
Abby Bay, on a passé cet extrait sonore pour vous agacer un petit peu. Kevin De Bruyne, meilleur joueur de la saison écoulée en Premier League, le joueur de Manchester City qui ne gagne rien à titre collectif, mais qui peut voir un de ses joueurs se voir décerner un prix individuel. Kevin De Bruyne, nommé, désigné meilleur joueur de Premier League par ses pairs, par les autres joueurs. Le meilleur joueur de la saison, selon les journalistes, c'était il y a plusieurs semaines, Jordan Henderson, capitaine de Liverpool. Et au milieu de tout ça, il y a Sadio Mané, qui lui avait été désigné meilleur joueur de la saison de Premier League par les fans. Alors on s'est demandé, dans le bureau de Radio Foot, s'il n'y a pas un petit décalage. Le public trouve que Sadio Mané est le meilleur joueur de Premier League. Les journalistes trouvent que c'est son capitaine, celui couleur de Liverpool, qui est le meilleur joueur. Et les autres joueurs trouvent que c'est un joueur de Manchester City, alors que c'est Liverpool, bien évidemment, le champion d'Angleterre. Ce décalage, Sadio Mané, c'est le champion du public. Et les professionnels de la profession, ils le sous-estiment. Vous en pensez quoi?
Bravo à E3. Je suis scandalisé, moi, je vous le dis. Non, je rigole. Ça, c'était le Habib Bey sénégalais.
Ah, c'est dommage, c'est dommage.
Pour être très sérieux, je suis déçu pour Sadio. Mais je trouve ça logique aussi de voir Kevin De Bruyne élu meilleur joueur du championnat. Lorsque vous avez
pour
un
ne
joueur...
pas vous mentir, j'ai perdu mes notes. Donc, je n'ai pas les stats de Kevin De Bruyne, mais il me semble qu'on est aux alentours de 20 passes décisives,
20 passes décisives pour Manchester City. Mais c'est surtout quel type de passe décisive. C'est pas n'importe quelle passe décisive. C'est un joueur qui est assez exceptionnel, qui a un pied exceptionnel, qui a pas été champion avec Man City. Donc, on peut relativiser aussi. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de vision différente des joueurs et éventuellement des fans et tout. Sadio est un joueur très populaire que les fans aiment beaucoup de par ce qu'il est. Il a moins marqué parce que l'année dernière, rappelez-vous, il y a 2 ans, il était meilleur buteur de Premier League. Il est en dessous.
Avec Salah, avec Aubameyang.
Voilà, exactement. Cette année, il est 5e ou 6e meilleur buteur de Premier League. Son équipe est championne. Donc, je suis pas, franchement, autant sur certaines années et sur d'autres titres, j'ai été un peu scandalisé du classement de Sadio. Là, je vous dis, voir Kevin De Bruyne élu meilleur joueur de Premier League, pour moi, c'est pas un scandale. Je suis déçu parce que j'aurais aimé que Sadio, mon compatriote, puisse gagner ce trophée. Mais il faut être aussi rationnel de savoir la saison, et j'ai couvert le championnat anglais, la saison de Kevin De Bruyne est assez remarquable, remarquable.
Il n'y a rien à tirer, Xavier Barré, de ce décalage, le regard du public et le regard de professionnel.
Ce qui est intéressant, quelque part, c'est que les joueurs en Angleterre, puisque le vote est organisé par la PFA, le syndicat des joueurs professionnels, les joueurs ont voté cette année pour Kevin De Bruyne, alors que je pense qu'ils le méritaient encore plus il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, effectivement...
C'est Mohamed Salah qui est élu,
alors que le champion, c'est Manchester City, et qu'à la baguette, c'est Kevin De Bruyne.
Oui, le nombre de buts de Mohamed Salah il y a 2 ans, c'est
peut-être,
30,
mais,
c'est 32 buts, je crois.
Et là, pourquoi je comprends pas, c'est parce que quand on regarde justement les choix de la PFA, alors pour les journalistes, c'est vrai qu'on peut discuter, on l'a d'ailleurs fait sur ce plateau pour le choix de Jordan.
Il me semble que c'était un peu la récompense du capitaine, donc le symbole d'un collectif.
Il est anglais, messieurs.
Et c'est des journalistes anglais qui votent majoritairement. Donc bon, là on sait comment ça se passe. Mais là.
Ils aiment voir les étrangers, par contre, ils préfèrent voter pour des Anglais.
Oui, bon, voilà. Mais là, c'est les joueurs qui votent. Et souvenez-vous, en 2016, ils votent pour Riyad Mahrez. Leicester champion, et c'est Mahrez qui est élu par les joueurs. En 2017, les joueurs votent pour N'Golo Kanté. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment, de la part des joueurs, beaucoup de sens pratique, puisqu'ils sont sur le terrain, face à eux, parfois avec eux. Et donc, et ben, voter N'Golo Kanté, c'était quelque chose d'assez étonnant. On vote souvent pour des attaquants, pour des buteurs. Et là, 2018, Mo Salah qui est meilleur buteur, alors que c'est Kevin De Bruyne qui amène Manchester City au titre de champion. Donc là, quelque part, pour moi, c'est un rattrapage. Mais effectivement, du coup, l'année où Liverpool est champion, ben, Sadio Mané peut être déçu.
Oui, c'est ça. Ça crée un décalage. Ça place quelque part le décalage. Vous avez Liverpool qui fait une saison historique et du coup vous ne récompensez pas un joueur de Liverpool.
Oui, c'est ça qui est, c'est ça qui est surprenant, que ce soit pas un joueur de Liverpool, parce que quand on a autant dominé la Première Ligue cette année que Liverpool, c'est suffisamment exceptionnel pour, a priori, me semble-t-il, récompenser un joueur de Liverpool. Mais comme le rappelait Xavier, il y a deux ans, Manchester City avait écrasé la Première Ligue et c'est pas un joueur de Manchester City qui avait gagné. Donc
non, c'est d'ailleurs le premier joueur de Manchester City à recevoir le prix PFA, donc des joueurs Kevin De Bruyne.
Laissons les votes, laissons les.
Bon, mais c'est vrai que souvent
c'est votes, c'est pas.
Mais il a été.
C'est pas très grave.
Mais c'est suivi par le public. Mais ça prend de plus en plus d'importance qu'on les apprécie.
Et puis là, c'est les joueurs. Donc moi, je respecte quand les joueurs votent, parce qu'on sait. On sait qu'ils vont pas forcément être accros à la statistique, au machin. Est-ce que c'est cette année qu'un tel était meilleur que l'autre? Bon,
non, c'est
ils seront peut-être moins rigoureux que les journalistes dans ce domaine-là. Par contre, leur appréciation personnelle, ça faut quand même le respecter, parce que s'ils sentent que Kevin De Bruyne c'est exceptionnel, bah je respecte.
C'est ça. Et puis si on doit décortiquer, on l'a dit, les journalistes, ils votent pour un Anglais parce que Henderson a fait une très très belle saison avec Liverpool et Liverpool est champion.
C'est un vote un peu trop intellectuel.
Les fans votent forcément pour le club champion, c'est-à-dire les fans de Liverpool ont beaucoup plus voté que les fans de City qui sont déçus de voir City être deuxième. Donc forcément, ils votent Sadio Mané parce que Sadio Mané à Liverpool est ultra populaire. Peut-être le joueur le plus populaire au sein des fans de Liverpool, c'est-à-dire c'est un joueur extrêmement adoré. Pour ce qui est du championnat anglais, pour l'avoir suivi, Sadio fait une très très belle saison, une magnifique saison, il n'y a rien à dire. La saison de Kevin De Bruyne, elle est aboutie du début à la fin. C'est-à-dire que City fait une mauvaise saison, mais Kevin De Bruyne porte City à bout de bras avec Raheem Sterling. Ce sont les deux joueurs qui ont émergé cette saison au sein de Manchester City. Et quand on voit les passes de Kevin De Bruyne, les 20 passes, elles ont illuminé le championnat d'Angleterre. C'est pas des petites passes, ce sont des passes extraordinaires où tout le monde se met debout comme un but exceptionnel d'une frappe de 25 mètres en pleine lucarne. Donc pour moi, c'est cohérent. Après, je suis déçu parce que j'aurais aimé qu'un joueur de Liverpool comme Xavier et comme Philippe soit récompensé et ça aurait pu être Sadio Mané, bien sûr.
Je reste sur Sadio Mané, on va terminer là-dessus. Il fait quand même partie de l'équipe type de Première Ligue.
Ah, quand même, heureusement.
Aux côtés de Pierre
Il ne l'avait pas été sur le titre UEFA ni sur le Ballon d'Or.
Alors, justement, il a aussi remporté le titre de meilleur joueur africain décerné par la CAF. Il y avait eu ce que beaucoup considèrent comme un scandale au Ballon d'Or. Il n'avait pas figuré sur le podium. Est-ce qu'il y a un plafond de verre sur le domaine des trophées individuels pour Sadio Mané? Et peut-être que ça correspond à son style de jeu, pas assez individualiste, spectaculaire entre guillemets.
Non, c'est pas du tout ça.
Il va en remporter un jour.
C'est spectaculaire.
Ailleurs qu'en Afrique, je parle. Parce qu'il a été célébré.
C'est spectaculaire. C'est un joueur qui est un joueur de collectif, qui marque beaucoup plus ces derniers temps qu'il ne le faisait auparavant, parce qu'il a aussi compris qu'individuellement, il fallait qu'il brille. C'est un joueur qui ne se vend pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la promotion de lui-même. Ça l'intéresse pas. Tout ce qui est réseaux sociaux, se mettre en avant, ça ne l'intéresse pas. C'est un choix de Sadio et il faut le respecter. Après, on va pas répéter ce qu'on a dit depuis 3, 4, 5 ans. Un joueur de même niveau, s'il est brésilien ou s'il est aujourd'hui africain, forcément en tout cas sénégalais par exemple, aura moins de reconnaissance parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que les sélections aujourd'hui brésiliennes sont plus reconnues par rapport à ce qu'elles font dans les compétitions qu'une sélection. Mais maintenant, une fois qu'on l'a dit, c'est comme ça et il faut s'y faire et on espère que Sadio pourra avoir une grosse distinction un jour.
Et nous, on l'a mis ici sur RFI, bien sûr, Sadio Mané. Merci. Abib Bey, merci. Xavier Barré, merci. Philippe Doucet, Radio Foot revient demain. Merci bien sûr à la tête pensante David Finzel et au réalisateur le maestro Laurent Salerno. Et puis demain, vous retrouverez l'atelier Annie Gasnier. Ciao, bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.